Vous écoutez Cinécast, le podcast cinéma présenté par Guillaume Herings et Thibaut Van der Werve. Au programme, l'actualité du grand écran et les nouveaux films à l'affiche cette semaine en Belgique. Bref, votre condensé d'infos ciné à ne pas manquer. C'est parti. Bonjour à tous, vous écoutez Cinécast saison 2, épisode 17. Salut Thibaut.
Salut Guillaume.
Comment vas-tu en cette belle journée?
Eh bien, plutôt bien.
En cette belle semaine de janvier.
Plutôt bien.
Plutôt bien, t'es prêt pour le...
On a un temps printanier quasiment.
Oui, on parle chaque fois du temps en début d'émission, comme si on était, tu vois, les deux Granny.
Les deux voisins qui se croisent dans l'ascenseur, là.
Granny, c'est pas Granny. Granny, c'est autre chose, c'est un autre concept.
Moi, je sais pas de quoi tu parles, mais... De bouffe, là.
C'est des biscuits, exactement. Donc aujourd'hui, on a une émission un peu particulière parce qu'on n'a pas quatre films, on en a trois.
Oh.
Oh, c'est dommage, on va pas entendre vos belles voix trop longtemps. C'est... Non, si vous allez nous entendre, ne vous inquiétez pas, on a pas mal de choses à débattre. Et puis j'ai vu un film cette semaine, donc c'est champagne.
Ah.
C'est champagne.
Oh là là.
Trois films, donc un qui est très attendu, hein, c'est, enfin, très attendu par un certain nombre de cinéphiles. C'est Glass, le nouveau film de M. Night Shyamalan, oui, exactement, avec James McAvoy, Bruce Willis, et entre autres, maintenant que j'oublie son nom, au moment où il faut pas oublier son nom. Un nom quand même assez compliqué à ne pas oublier, Nick Fury entre autres. Je n'ai plus son nom dans ma tête.
Samuel Jackson.
Merci, enfin.
Oh là là, il te tue.
Oui, pourtant c'est dingue. Pourtant, je regarde pas mal d'extraits de films de Tarantino ces derniers temps.
Alzheimer à ton
nom,
âge, dis.
À moi, c'est l'alcool. Hein. Donc,
c'est donc ça. C'est pour je ça. Le disais aussi.
Donc Glass. Ensuite, on va parler de Colette, qui est un film avec Keira Knightley et Dominic West entre autres. Et on termine par Peter Law. Donc il y aura un peu tout au programme. On a un film d'abord, thriller fantastique Glass. Après, c'est un drame biopic pour Colette. Situé dans les années 1893, dans l'année plutôt 1893, quoique ça se passe sur plusieurs années, et Peter Law, qui est un autre film inspiré du coup du massacre du même nom, qui ça se passait début du 19e siècle, donc ça c'est 1819, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ça c'était un petit peu les trois films différents dont on va parler. Comme d'habitude, on passe par le box-office, mais juste avant, on vous rappelle que nous sommes disponibles sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement légal de podcasts. C'est-à-dire, ça peut être Spotify, ça peut être Deezer, iTunes, etc., etc. Donc forcément, si vous appréciez l'émission,
la totale,
ça nous ferait vachement plaisir si vous vous abonnez, lâchez une critique et un commentaire. Voilà, faites tourner comme on dit. Donc, le box-office, pour démarrer chaque semaine au même point, il faut savoir que du coup, il y a trois films, des nouveaux films qui sont rentrés dans le box-office. Donc, des films dont on a parlé la semaine passée, pour la plupart d'entre eux, qui sont rentrés dans le top. Le premier film, c'est Creed 2. C'est pas une surprise, hein. 800 000 entrées en France, c'est quand même un gros démarrage.
Un sacré démarrage
pour nos amis français. Il faut croire qu'apparemment, c'était très populaire, sachant qu'il y a quand même... une moyenne par copie de 1556 spectateurs, c'est quand même assez balèze pour un film comme ça.
J'ai vu des vidéos de projections de Creed 2 en France dans des cinémas du nord de Paris. C'est du grand, grand, grand n'importe quoi.
Dans quel sens? Tu veux dire les gens réagissent?
Les gens sont limite debout sur leur siège en train de gueuler et c'est limite, il n'y a pas de paye en train de se battre devant l'écran, quoi, tu vois.
Ok, ça fait...
Creed 2 in real life.
C'est, apparemment, il y a un petit besoin de testostérone en France.
Oh là là, c'est dramatique.
Mais non, c'est ça le cinéma aussi, c'est profiter tous ensemble d'un moment.
Ouais, moi je vais à la caisse, je vais demander à me faire rembourser.
Il fut un temps, où le cinéma, il y avait des gens qui gueulaient dans la salle. Enfin, je sais pas si. Oui, toi, tu as déjà voyagé pas mal de fois en Amérique du Sud. Aller voir un film là-bas, c'est pas la même expérience qu'ici. Même déjà, moi en Angleterre, j'avais
été voir les gens
films.
Sont mieux éduqués,
ouais. J'avais été voir un film en Angleterre, et en Angleterre, c'est vrai que les gens réagissaient beaucoup plus qu'en Belgique, dans la salle. Ouais. Donc, les gens commentaient ce qui se passait tout haut, quoi. Et donc, en un coup, quand il y avait un truc qui était.
Bif, quoi.
Un peu, ouais. Et donc, du coup, c'était une expérience assez sympathique, qu'on ne voit pas vraiment chez nous, c'est vrai, à part au bif, comme tu fais bien de le dire. Deuxième film du top 5, c'est Les Invisibles. On en avait parlé brièvement lors de l'épisode précédent. Avec beaucoup moins d'entrées, 380 000 entrées, mais ça reste quand même une très belle performance pour ce film qui a réussi quand même à détrôner, entre autres, Aquaman qui était là depuis plusieurs semaines. Hein. Donc Aquaman est en troisième place avec 275 000 entrées, ça reste un bon score, et un total bientôt de 3 millions d'entrées en France, donc ça reste un des gros succès de l'année. Non pas pour le cinéma français, mais pour le cinéma américain, à Oncle Sam, mon vieux. Quatrième film, on en a parlé aussi. D'ailleurs, on a eu des interviews ce week-end. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les écouter. Interview avec Alexis Michalik et Thomas Oliveres, qui était publié vendredi, je pense, pour Alexis, et dimanche pour Thomas. Deux épisodes très sympathiques où ils ont parlé à cœur ouvert, on va dire, de leur carrière, de leurs choix, de plein de choses. Vraiment très intéressant, donc je vous invite à écouter tout ça. Et donc, oui, le quatrième film, c'est Edmond, avec 250 000 entrées pour ce film-là, distribué sur beaucoup moins de copies hein, que les autres. Mais quand même, c'est vrai que c'est un film qui aurait peut-être pu prétendre à plus. Mais c'est vrai que, voilà, grosse concurrence oblige avec Creed 2, Les Invisibles, etc. N'a pas dépassé le score des 250 000 entrées. Mia et le Lion Blanc, ça c'est le cinquième film qui maintenant a plus de 1,1 million d'entrées en France, donc c'est pas mal du tout, puisque c'est un film qui, en tout cas chez nous, est passé un peu inaperçu. Donc belle performance en France pour ce cas-ci. Tu me regardes avec un regard genre, c'est pas parce qu'on en parle pas en Sénégal qui est passé inaperçu, hein, Guillaume.
Je n'en dirai pas plus.
Tu n'en diras pas plus. Voilà. Parlons tout de suite du premier film de la semaine, un film que beaucoup d'entre vous attendaient depuis notamment Split, qui marquait un peu le retour de M. Night Shyamalan. Pardon, à chaque fois j'oublie. Enfin, c'est pas que j'oublie, c'est que.
C'est, pas bah, c'est que tu n'as jamais su prononcer les noms des gens correctement. Exactement. Il n'y a pas de raison que ça change.
Ou le nom des choses, oui, c'est ça. Pourtant, on croit, à chaque semaine, on va faire un podcast, on se dit ça va s'améliorer, mais non, ça ne s'améliore pas. Maman, je t'aime. Oui, parce que ma mère est prof de français, donc c'est pour ça que c'est très drôle. Et donc du coup, oui, Split, il y a quelques années, c'était avec James McAvoy qui prenait le rôle d'un homme qui savait endosser 23 personnalités dans un film toujours autant de suspense avec un retournement à la fin du film notamment, puisqu'on comprenait qu'il y avait un lien, je crois qu'on peut le dire maintenant, avec Incassable.
Je pense qu'on peut le dire.
On peut le dire, hein, voilà, c'est pas spoiler, bah, avec un lien avec Incassable et qui ouvre du coup le champ des opportunités pour M. Night. Pas dire son famille.
On peut l'appeler Night, tout simplement.
Night. Pour faire d'autres choses, pour essayer d'explorer un peu plus cet univers avec ces personnages qui ont tous leurs spécificités. Est-ce que c'est des vilains? Est-ce que c'est des gens avec des pouvoirs ou autre? Ça reste un peu la ligne du fantastique qui, maintenant, bah, il franchit complètement avec Glass. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce film que du coup, je n'ai pas vu, qui reprend le même casting d'origine pour Incassable, mais qui rajoute, du coup, James McAvoy et...
Enfin, tout le casting d'Incassable n'est pas de retour. Hein. Il y a pas
en tout cas, les deux...
Robin Wright n'est pas de retour, par exemple.
Malheureusement.
Alors, en fait, je ne sais même pas par où commencer, parce que c'est un film assez particulier, dans le sens que, malgré la fin de Split, où on voyait cette scène qui avait lieu pendant le générique, elle n'était pas vraiment en rapport avec le film directement, avec Split en fait. On voyait juste le personnage de David Dunn, donc incarné par Bruce Willis, qui regardait la télévision et qui disait quelque chose, je sais plus ce qu'il disait exactement, mais enfin voilà, il réagissait par rapport à ce qui se passait à l'écran. Et donc ça ne laissait pas spécialement augurer quoi que ce soit de particulier, de précis pour cette suite, parce que en fait, c'est effectivement à ce moment-là qu'on a compris que tout était lié. Et que en fait c'était un univers partagé que le prochain film, donc Glass,
poursuivrait en fait.
Oui, voilà. Parce que Split a commencé. Voilà, c'est ça. Il rassemblerait les deux premiers films ensemble pour voilà, on arrive à quelque chose de.
C'est un peu une point trilogie, final en fait. Une trilogie cachée quoi.
Tout à fait. Mais... C'est une trilogie qui était un peu surprise. Et donc, en fait, le film démarre avec David Dunn qui... Alors, dans le synopsis, ils disent « L'homme poursuit sa traque de la bête ». En fait, c'est pas qu'il la poursuit, c'est qu'il la commence. Parce
oui,
que,
c'est ça. Il l'a jamais vraiment poursuivi avant.
Voilà.
Sinon, on l'aurait vu dans le premier, n'est-ce pas?
Oui. Mais on comprend assez vite au début du film que c'est quelque chose qu'il a entamé depuis un moment déjà, la poursuite de cette bête, qui est donc la 24e personnalité du personnage de James McAvoy, enfin de Kevin. Kevin Crumb, pardon. Et à côté de ça, on apprend aussi que Elijah Price, Mr. Glass, est toujours dans son hôpital psychiatrique. Voilà.
Oui.
certains événements du début du film vont faire que les trois personnages vont se rapprocher, vont se rejoindre. Et enfin voilà, ils vont se croiser.
Mmh.
Alors je vais pas dire dans quelles circonstances, pourquoi, non. ni ce qui va se passer après, parce que sinon vraiment ça va dévoiler la grosse partie principale de la trame.
Ils vont aller dans un village, pardon quoi. T'as pas
non.
compris le lien.
Non. Okay. Oui si, j'ai merci quand même. Ça va. Hein, j'ai vu un peu de film.
T'as vu un peu de film, c'est vrai. Un peu. Je connais combien de films t'as vu en 2018 ouais. T'as compté ou pas
Ouais, mais moins que d'habitude.
Genre plus ou moins.
Ah 260.
Ok voilà.
Gros film. Ouais, d'habitude, je suis plutôt à 300.
Voilà, un par jour, quoi.
Oui. Bah, non, parce qu'il y a 365 avec
quelques,
jours
avec
dans
quelques
une année.
Day-off, quoi, tu vois.
Ouais, quand même.
Une centaine.
Ouais. Nouveau film, hein, là, je compte pas les films que je regarde
oui,
chez
oui,
moi.
Oui, que
voilà.
tu regardes, parce qu'on sait que tu regardes chaque année. La
Grande nouvelle sortie.
Oui, tout à fait.
Non, je ne regarde pas La Grande Vadrouille chaque année. Désolé. Soit. Tous ces personnages vont se croiser. Et en fait, en se faisant... croiser ces différents personnages, ces différentes personnalités qui ont chacun leurs caractéristiques, qui ont chacun leurs spécificités, leurs pouvoirs. Hein.
Mm-hmm.
En fait, Shyamalan fait une espèce de je ne vais pas dire de recherche, ni une espèce d'interrogation sur ce qu'est être un super-héros, en fait.
D'accord. C'est vrai que c'est ça... On a l'impression,
c'est une réflexion, en fait.
Ouais, on a l'impression que le film, en tout cas, de son marketing, ça donne l'impression un peu qu'on a une sorte d'Avengers en préparation, ce qui, à mon avis, n'est pas le cas.
Non, non.
Mais voilà, il y a ce côté plus super-héros qui est plus assumé que dans les autres, voilà, tout simplement.
Ouais, ouais.
Incassable n'était pas un film qui ressemblait à ça, et Split du non tout. Plus. Et donc, du coup, c'est de nouveau un peu un tournant. La manière d'aborder les choses est différente, entre guillemets.
Mais... En fait, cette trilogie est l'anti-Avengers.
Oui.
Même si je pense qu'il y a quelques points de convergence quand même sur les interrogations que peuvent se poser les super-héros. Mais ici, on est dans quelque chose de beaucoup plus... Mais c'est anti-super-héros à crever, ce film. Ouais. Ce sont des gens qui ont certes des
pouvoirs,
des particularités physiques. David Dunn, son pouvoir, entre guillemets, c'est d'être très fort. La bête.
Kevin Crumb,
ouais. Il a plusieurs personnalités et son personnage de la bête, il a aussi une très grosse force. Pas dans le même genre, mais voilà. Et à côté de ça, il y a Mr. Glass qui lui est plutôt un. C'est le moins super-héros de tous.
C'est un sage, un peu comme ça.
C'est un mystérieux. C'est un terroriste, gars. C'est quelqu'un qui a quand même. Qui a fait des attentats. C'est pour ça qu'il a été. Enfin, pour rappel, pour ceux qui ont vu Incassable, c'est pour ça qu'il a été emprisonné. Donc, il y a quelque chose de très anti-héros dans sa façon d'aborder le sujet. Il n'y a pas de scène hyper spectaculaire avec des explosions. C'est anti-Marvel au possible.
C'est un peu dans la même lignée, alors du coup, que je rappelle, je n'ai pas vu le film. Un Man of Steel, alors peut-être. Dans la manière d'aborder les choses. Tu vois, genre, être héros, c'est aussi un fardeau, blablabla, tu vois, ce côté-là.
Un petit peu, mais, mais ici, on est plus dans du cinéma qui est pas blockbuster, qui est pas auteur non plus, mais on est plutôt dans un entre-deux, un truc assez sérieux, assez complètement dans la même veine qu'Incassable, en fait.
Ouais,
hein,
bien sûr. Il n'y a pas un gros méchant à la fin du film avec une ville qui explose et un tourbillon qui va vers le ciel.
Non, alors il y a quand même un petit côté très un peu comics, un peu un petit peu film de super-héros sur la fin. J'en dis pas plus. Mais ça reste quelque chose d'assez sérieux, assez. Je vais pas dire premier degré, mais voilà, il y a un certain sérieux pendant tout le film qui confère au film une atmosphère assez assez particulière. Vraiment, hyper anti-héros à crever. Et c'est ça qui rend la chose très intéressante, parce que si une des façons d'aborder les super-héros, c'est effectivement de faire quelque chose un peu plus kitsch, hyper second degré, etc., à la Marvel et autres, ça fonctionne super bien, mais faire l'opposé n'est pas inintéressant non plus. Et c'est ce que Shyamalan fait. Alors, le scénario a quand même ses petits défauts et ses petites facilités, Mais d'un point de vue technique surtout, c'est toujours très très bien. Il y a pas mal d'astuces visuelles qui sont là. Il y en a une que j'aime beaucoup. En fait, c'est un plan... on est dans un train, enfin dans le fameux train dans lequel était David Dunn dans Incassable. C'est filmé de nos jours, hein, on filme un personnage en particulier. Et puis, la caméra quitte un peu ce personnage, elle continue à reculer en travelling arrière. Et puis, elle se décale sur un siège à droite et bam, on arrive sur le premier plan d'Incassable. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était filmé entre les deux sièges... entre deux sièges, et derrière, sur les sièges juste derrière, il y avait le personnage de David Dunn, Bruce Willis, appuyé contre la fenêtre, etc. Donc, il fait un raccord direct avec le premier film. D'accord. Ça fonctionne super bien, il y a pas mal de petites astuces comme ça.
Voilà. La mise en scène, quoi, aussi. Mais...
Clairement, la mise en scène est au top. Et là, chez Malan, il a visé juste, il a eu le nez fin.
Il s'est fait plaisir, quoi.
Ouais, vraiment, il s'est fait plaisir. Et à nouveau, même si le film n'est pas exempt de tout reproche, je trouve que dans l'ensemble, c'est quelque chose d'assez cohérent, qui se tient vraiment bien et qui est assez couillu au final, hein, parce que voilà, c'est pas spécialement dans la veine actuelle de faire ce genre de choses. Et pourtant, moi, je trouve que ça fonctionne assez bien. Donc, il conclut cette trilogie sur une bonne note. On est quand même plus dans le style Split que dans le style Incassable. Mmh. Je sais que la plupart des gens préfèrent quand même le style Incassable, mais ça fonctionne. Voilà. Franchement, c'est assez réussi.
Quand tu dis conclu, c'est que ça se termine vraiment sur une conclusion. Il n'y a pas de possibilité d'un autre.
Je ne pense pas qu'il y aura de suite.
Voilà, il a fait son truc. Quoi. Okay.
Rien n'est impossible, mais là, ça me paraît très, 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 très peu probable.
Voilà, mais des bonnes surprises, du coup. Donc, tu parles d'une mise en scène assez recherchée, un M. Night qui prend des risques, qui vraiment explore son univers dans ce film-ci. Les performances toujours au top ou...
Ouais, ah bah oui, bien sûr. En fait, il y a ce côté nostalgique qui fonctionne super bien. Revoir Samuel L. Jackson...
Voir Bruce Willis qui joue.
Bruce Willis dans ses personnages, bah voilà.
Et qui joue surtout.
Oui, aussi.
Qui n'est aussi. Pas là que pour récolter le chèque. Donc voilà, ouais. Ok, bah donc du coup, une belle surprise pour Glass. Peut-être pas le film conventionnel, l'anti-Avengers, comme tu dis, donc c'est pas mal, c'est bien résumé. Qu'est-ce que tu lui donnes comme cote?
2, peut-être 3.
Ça veut dire quoi, ça?
Bah, il y a quand même des petites faiblesses dans le rythme, dans des petites facilités scénaristiques. 2h10.
Ça me fait peur, ça. Comment ça 2h10, je sais pas. Hein.
Ah, 2h10. Non, la durée, ça va encore, c'est pas gênant.
Ouais.
Voilà, je trouve qu'il y a des... Je peux pas parler de failles dans le scénario non plus, mais je trouve qu'il y a des petites... Parfois, ça se touche un peu, quoi.
D'accord. Donc, mais écoute,
allez, on va dire un 2.
Un 2 étoiles.
C'est quand même un bon 2 étoiles.
Un bon 2 étoiles pour Glass, qui clôture la trilogie de Shyamalan. Shyamalan, oui, c'est ça.
Bien.
Putain, c'est dur. Hein.
Tu vas y arriver correctement.
Je vais y arriver, pourtant, il n'est pas tard hein, spécialement. Shyamalan, oui. C'est lequel ton préféré du coup de la trilogie? Si je te dis, allez, on va en regarder un maintenant, lequel tu prends? Et pour quelle raison?
Incassable quand même.
Incassable, et pour quelle raison?
Ah, les personnages. Même si j'aime bien le personnage de James McAvoy, j'aime bien celui de la fille qui kidnappe, qui est de retour dans ce film-ci hein, d'ailleurs. Mm-hmm. Et j'aime vraiment bien aussi ce qu'ils en font des personnages d'ailleurs dans Glass. Mais bah, vraiment, les personnages de David Dunn et de Mr. Glass, je les aime beaucoup et j'aime beaucoup l'identité visuelle du film qui était très, très sombre, très bleu comme ça. Ouais. Il y avait des teintes assez plutôt bleutées. Et voilà. Je préfère ça à Split ou à Glass, qui sont quand même tout à fait corrects. Hein.
Mais quand tu dis les personnages, donc tu choisis un cassable pour les personnages, bah, tu les retrouves ici dans Glass, mais peut-être que tu n'as pas aimé le...
C'est pas la...
Tu préfères quand même l'orientation à cassable, quoi.
Oui, c'est ça. Disons que les personnages n'en sont pas au même stade dans leur existence non plus, forcément. Donc je préfère ce qu'ils vivent dans Incassable que dans Glass, même si Glass est une bonne conclusion à l'histoire de ce personnage.
Ok, top, super. Ben voilà, 2 étoiles pour Glass. Passons tout de suite à une news qui, quand tu l'as appris, tu n'as pas résisté.
Jizz in my pants.
Tu m'as appelé, je pense, à ce moment-là.
Je t'ai appelé un peu après.
Tu m'as appelé.
Oui, mais c'était pas pour ça.
Si, c'est pour ça. Si, c'est pour ça parce qu'il s'agit de Tom Cruise. Alors forcément, quand il s'agit de Tom Cruise... Mais j'ai envie de dire, je suis tout aussi excité que toi pour cette news. Tom Cruise et Christopher McQuarrie qui annoncent aujourd'hui même, enfin surtout Tom Cruise, qu'ils vont faire deux Missions Impossibles ensemble. Donc ils continuent leur collaboration, puisqu'il faut savoir que Christopher McQuarrie est arrivé pour Rogue Nation et a continué maintenant avec Fallout.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est la première fois...
Qui étaient donc les épisodes 5 et 6.
5 et 6, et c'est la première fois dans la saga Mission Impossible qu'un réalisateur faisait deux fois d'affilée un épisode.
Ouais.
D'habitude, on changeait toujours de pratique et un peu d'univers aussi, hein, faut le dire. On a eu Mission Impossible 2 qui n'était pas du tout la même chose que
le 3, par exemple. Les 5 premiers sont dans des styles complètement différents.
Le 4, ça commence déjà. Ils ont trouvé un peu... En fait, le 4, c'était le test pour relancer la franchise, clairement.
Oui.
Avec cette idée maintenant de faire une grosse cascade par film et tout. Et ça a très bien marché. D'ailleurs, le film était très bon, Bad Bird. Et Christopher McQuarrie, qui avait déjà travaillé avec Tom Cruise ou Valkyrie, entre autres, parce qu'il avait écrit. Forcément Jack Reacher.
McQuarrie, oui, il a écrit Valkyrie.
Valkyrie, c'est ce que j'ai dit.
Ouais, tout à fait.
Mais sur Jack Reacher. Que
lui, il avait réalisé Jack Reacher.
Là, il a réalisé. Du coup, ça marche bien entre deux et il nous a sorti un grand Fallout, énorme épisode de Mission Impossible parce qu'on a
d'abord
là...
un grand Rogue Nation et puis un
oui,
grand
un très
Fallout.
Grand Rogue Nation que beaucoup considèrent comme le meilleur de
c'est mon
la
préféré,
franchise, voilà.
Clairement.
C'est vrai que c'est le plus équilibré, on va dire ça comme ça. Et puis Fallout qui est une démonstration de force en termes de réalisation.
Et de narration.
De narration et voilà, d'action, tout simplement. Donc, on ne peut que être content de savoir cela. Maintenant, une chose assez particulière, et c'est la première fois aussi, ils vont tourner les deux épisodes ensemble.
Oui.
Donc, en un coup, pendant 6 mois de tournage, ils vont se faire chier.
En même temps, c'est la première fois qu'ils annoncent faire deux films en une fois. Enfin, pas en une fois, mais je veux dire qu'ils annoncent deux suites directement. D'habitude, on annonce un film après l'autre.
Ouais, il faut savoir que Fallout a fait 800 millions de dollars dans le monde entier.
Quasi 900 ou un peu plus de 900.
Donc c'est le plus gros dans la franchise. Il paraît qu'avec les ventes de Blu-ray, ça marche très bien aussi. Parce que forcément, c'est un film à posséder en Blu-ray.
Que je n'ai toujours pas.
C'est un film à posséder en Blu-ray.
Guillaume, d'ailleurs, je n'ai toujours pas reçu ton cadeau de Noël. Donc si jamais...
Si jamais, on m'enverra un mail pour faire gagner un concours. Je t'envoie le code.
Ça va.
Donc voilà, Tom Cruise et McQuarrie qui continuent. Et les sorties sont prévues en l'été 2021 et l'été 2022.
Oui.
Donc
parce qu'il y a
un peu de temps à attendre.
À l'été 2020, il y a déjà un certain Top Gun 2. Donc ils n'allaient pas se faire concurrence.
C'est ça. Été 2019.
Surtout que je pense que McQuarrie est aussi au scénario de Top Gun 2, très certainement. En même temps, maintenant, McQuarrie et Tom Cruise,
c'est producteur,
ils font des bébés ensemble. Hein,
c'est... Il écrit, produit, réalise. Donc McQuarrie, là, à mon avis, triple casquette.
Ouais. Je suis un peu mitigé par rapport à cette news, dans le sens où ce qui fait clairement le... Ce qui faisait, en tout cas, le charme de la saga Mission Impossible, c'est d'avoir un nouveau réalisateur à chaque fois. Brian De Palma, puis John Woo, J.J. Abrams, Brad Bird, et puis Christopher McQuarrie. Franchement, c'était top. Après, avoir à nouveau McQuarrie, ça fait un peu...
Oui, mais...
C'est un petit peu dommage.
C'est
parce que du coup,
quoi.
Oui, mais c'est ça, l'autre aspect, c'est qu'effectivement, il a fait deux des meilleurs épisodes pour moi. Donc si là, il prévoit un truc directement en deux films, avec se dire que du coup, ça va se tenir scénaristiquement, ça va être top. En tout cas, c'est l'idée, c'est l'objectif. Pourquoi pas, ça va sûrement être bien, et donc c'est assez excitant. Mais je trouve que c'est dommage de perdre un peu cette alternance qu'il y avait. Chaque réalisateur, à chaque film, son réalisateur, son nouvel univers, etc. Parce que comme tu le disais, effectivement, le Mission Impossible 2, celui qui est détesté par le plus de personnes, moi que j'adore, c'est un de mes préférés, je ne le cache pas. Le style de John Woo, ça n'a rien à voir avec tous les autres, quoi. De Palma non plus, chacun avait son propre style. Et c'est ça qui faisait clairement la richesse de la saga. Ici, maintenant, McQuarrie, en faisant l'épisode 7 et 8, veut dire qu'il en aura fait 4. Il aura fait la moitié des épisodes de la saga. Il en aura fait autant que tous les autres, quoi.
Ouais.
Donc bon, c'est un poil dommage. Mais clairement, s'il en fallait un, enfin, il fallait un réalisateur pour faire ces deux films, c'était lui et personne d'autre, à mes yeux. Donc voilà. je suis quand même très très excité, je vais pas te mentir.
Moi, bon, je pense que voilà, bon, c'est clairement une décision aussi financière de dire ça marche très bien, les gens adorent les épisodes qu'ils réalisent. Les deux, à mon avis, passent un bon moment à bosser ensemble, puisque sinon ils ne le feraient pas.
Oui, bah,
donc voilà, ils s'entendent bien, ça se
sent. Ils sont cul et chemise. Hein.
Exactement, donc voilà, ils ont trouvé la bonne combine, ça fonctionne, Tom Cruise peut laisser une empreinte, il a déjà laissé une empreinte, hein, mais là, il peut vraiment marquer le gros coup, et je pense que c'est la fin aussi, à mon avis. Ils vont terminer. Il y a quand même 50 et quelques.
Tu fais bien de le dire, parce que moi, je trouve que Fallout était quand même une belle conclusion.
Bah, c'était, tu termines avec un boom, quoi.
Mais, hein. Oui, mais clairement, bon, pourquoi pas vraiment définitivement clôturer la saga.
Je pense qu'il y a un truc qui a toujours été le problème de cette saga, en mon sens, c'est que le personnage d'Ethan Hunt, de par le changement de réalisateur, le changement d'orientation, etc., a eu un personnage qui n'est pas toujours très constant et consistant, et donc chaque fois ils essayaient d'introduire une nouvelle facette du personnage. Il y avait le J.J. Abrams qui montrait vraiment pendant, je crois que c'était 30 minutes de film, sa maison avec sa femme, ses amis, sa vie de tous les jours et tout. What? C'est un truc complètement, allez, pour Mission Impossible, c'est jamais fait, quoi.
Ouais, ouais.
Et là aussi, de nouveau, on réintroduit des trucs qu'on a plus vu depuis 4 épisodes ou 2 épisodes. Je pense que là, Christopher McQuarrie a peut-être envie de construire vraiment une histoire de A à Z avec Ethan Hunt, une évolution du personnage, et il se rend compte que t'as besoin de temps pour faire ça, et qu'entre les trucs d'action, etc., tu dois pouvoir avoir un truc qui se tient à la route. Et c'est vrai que pour moi, l'émotion dans Mission Impossible n'a jamais été un gros point fort, quoi. Là, tu vois, je veux dire, là, pour moi, j'ai jamais...
Là, dans le 6, on a quand même atteint des points assez intéressants. Ouais,
c'est vrai. C'est plus du
avec
suspense.
Avec le retour l'ex-femme d'Ethan Hunt.
C'est plus du suspense, je trouve. Voilà, c'est en fait, il y a une bombe qui va exploser et en plus, il y a ta femme qui est là. Tu vois, c'est un peu, ok. Tu vois, c'est un peu le... Bon, c'est pour faire construire le suspense. Je pense qu'il y a moyen...
C'était fait intelligemment.
Ouais, voilà. On verra ce que ça va
avec
dire.
Émotion quand même.
On verra ce qu'ils vont faire.
La scène où ils se retrouvent face à face, là, dans ce camp en Afghanistan, moi, j'étais un gros fragile sur mon siège.
Bon, c'est bon.
C'est trop beau. Ouais.
Bon, parlons d'autre chose. Parlons d'un, par contre, on parle de continuité, de choses qu'on a déjà vues. Parlons maintenant de choses qu'on n'a pas vues, enfin un petit peu. Spielberg, qui a fait son casting pour West Side Story et, une fois n'est pas coutume, a pris des inconnus, des parfaits inconnus pour jouer les jeunes, dont une certaine Rita Moreno. Mais je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que je ne connais absolument pas les gens qu'il a pris pour faire ce film. Mais c'est, en tout cas, ça avance. C'est ça la nouvelle, en gros.
Bah oui.
C'est que ça avance.
Bah oui, d'un côté, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'aura pas de film de Spielberg cette année, mais qu'on aura son West Side Story.
Il en a fait deux l'année passée.
Et son... Ah non, il y a une Indiana Jones aussi quand même qui doit arriver, je pense.
L'année prochaine, je pense.
Tournage, ça a déjà été fait, etc. Je n'ai pas vu grand-chose passer. Enfin, soit.
Je ne sais pas. Mais il y a pas mal de projets pour Spielberg. On ne sait pas très bien où il en est, notamment le Tintin, puisque ouais. La semaine passée, c'était les 90 ans de Tintin.
Ouais.
90. Et donc, ils ont confirmé que Peter Jackson et Steven Spielberg bossaient sur un Tintin 2. Mais bon, cette info est confirmée depuis 5 ans, donc
ouais.
Faut pas trop s'emballer non plus.
Non, ben ici, West Side Story, c'est un de ses projets, c'est le prochain. Avec Ansel Elgort aussi, quand même, qui aura un des rôles principaux, qui fera Tony, c'est le cofondateur des Jets.
Voilà.
Je sais pas si tu te souviens de... Oui. Quand même, oui, ça va.
Par contre, du coup, ça me fait penser, Mortal Engines, ça a été un des pires... Dobo box office, en tout cas.
Eh bien, c'est décevant. Parce que c'était très bien.
Non, mais vraiment, un échec. Mais alors, cuisant. Genre, ils ont payé 200 millions pour faire le film et il en a rapporté genre 14, quoi, tu vois.
Tu exagères un peu.
Je te jure, aux États-Unis en tout cas. Et donc, du coup, grosse remise en question.
Les États-Unis ne sont plus une référence.
Grosse remise en question chez nos amis Peter Jackson, qui, à mon avis, va peut-être chercher de la stabilité pour son prochain film. Ce serait pas étonnant qu'il tente de faire un Tintin. Pour se dire, bon, voilà, je change un peu. Enfin, c'est pas lui qui faisait Mortal Engines, hein, mais voilà. Pour un producteur, c'est pas terrible d'investir dans un truc qui ne fonctionne pas. Hein ?
Certes.
Donc,
certes.
On va voir ça tout de suite. Enfin, tout de suite. Je regarde juste pour le box-office de Mortal Engines, hein, pour savoir combien il a rapporté.
Je suis assez curieux, mais écoute, franchement, c'est dommage, parce que le film était quand même une très bonne
surprise. 100 millions de budget de production. Ouais. Alors, je sais pas comment ils ont fait pour faire un film avec autant d'effets spéciaux pour 100 millions, mais parlons-en.
C'est faisable.
C'est faisable apparemment.
Et Weta, c'est pas les
Américains. Et donc, je confirme, il a rapporté 15 millions aux États-Unis.
15 millions, c'est tout. Oh là là là,
c'est tout. Je crois qu'il est resté 3 semaines au cinéma, ils l'ont enlevé. tellement ça marchait pas. Et dans le monde entier, il a rapporté 57 millions. Donc, ça fait 73 millions pour un film qui coûte 100 millions. Il faut savoir qu'en général, il y a le double du budget en marketing. Donc, ça fait 200 millions d'investis pour 73. Donc, je pense que notre ami Peter Jackson doit trouver une solution pour gagner rapidement de quoi payer son ranch. Donc, s'il fait Tintin, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Écoutez, on vous tiendra au courant si on a plus d'infos. Parlons tout de suite du deuxième film de la semaine. Un film qui, changement de style, hein, on est dans le biopic.
Ah oui, là, complètement. Hein.
Qui s'appelle Colette. Alors, qui est Colette ? C'est Gabrielle Sidoni Colette. C'est une Française à la base.
Oui.
Bah oui, mais qui est jouée par Keira Knightley.
Oui, bah oui.
Dans un film BBC. Presque. Non, c'est un film anglais en tout cas, hein, du British Film Fund ou je sais pas quoi. Mais oui, donc Keira Knightley qui joue Gabrielle Sidoni Colette, qui est une auteure française.
Oui. Bah, Colette. Tout simplement.
Colette, tout simplement.
C'est comme ça qu'elle signe.
Ah, mais non, ouais, c'est comme ça qu'elle le signe, d'ailleurs, le film.
Maintenant, signature. Elle est morte depuis un peu longtemps.
Elle est toujours là, je la connais personnellement. On boit des verres chez Colette. Ouais, chez Ginette, il y a chez Colette. Il y a un peu,
d'accord.
Il y a un peu de tout. Donc voilà, c'est une histoire qu'on a l'impression qu'on a déjà vue, hein, de certaines manières, cette année-ci.
Oui. D'une certaine façon, oui. Marie Shelley est un peu dans le même genre.
Voilà. Donc c'est une femme qui, issue un peu de la campagne, hein, qui va se marier avec un homme plus âgé qu'elle, qui est écrivain assez excentrique et qui habite à Paris, qui s'appelle Willy. Et puisque Willy est un peu dans la misère, il autorise sa femme à écrire, ou plutôt il la force à écrire en disant « Écoute, toi tu écris plutôt pas mal, c'est toi qui vas m'écrire mon prochain bouquin. » Et elle écrit Claudine. Claudine qui est un bouquin, un truc un peu romantique, poétique, qui parle d'une fille de la campagne qui
Martine, quoi.
C'est Martine à la plage, qu'on se le dise, mais avec un côté poétique, hein, du style, j'ai été à la plage et j'ai vu des trucs, voilà, vous voyez le genre de livre. Et ça marche super bien, c'est un gros succès en France, c'est tellement un succès qu'il y a des produits dérivés et tout, donc on parle vraiment d'un truc, ça fonctionne. Sauf que forcément...
Il y avait du merchandising au début du XXe siècle.
C'est signé par Billy et non pas par Colette.
Mais oui.
Hein, donc ça fait penser un peu au synopsis du film The Wife.
Oui, et Mary Shelley, comme je le disais,
et Mary Shelley.
Frankenstein qui,
donc voilà.
Qui ne portait
c'est
pas
signé
son
par son mari, mais et c'est peut-être la première bonne nouvelle par rapport à Colette, le film ne parle pas que de ça.
Non,
on ne se concentre pas uniquement sur le fait de dire oh, mais tu signes le livre à ma place et oh, je vais te coller un procès. On n'est pas dans un film où ça tourne, il n'y a pas que ça, il y a vraiment aussi cette femme qui se transforme au fur et à mesure de sa vie. Parce que c'est vrai que voilà, elle est partie d'une fille qui, voilà, de la campagne qui n'avait aucune opportunité. En rencontrant son mari, elle a écrit. Et cette écriture lui a permis de rencontrer des gens qui lui ont donné envie de, par exemple, lancer une pièce de théâtre, des choses comme ça. Et donc de s'émanciper en tant que femme. Je crois que c'est un peu le concept du film, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de Colette ? Ah ouais ?
Ouais, ouais, vraiment.
C'est Chloé qui va être contente.
Oh là là. Non, mais c'est du petit biopic gentillet à l'anglaise. C'est très plan-plan. C'est quand même un petit peu intéressant parce que voilà, je n'étais pas complètement familier avec Colette non plus.
Oui.
Bah bon, voilà, aussi vite vu, aussitôt oublié. Bon, qu'est-ce qu'on en retient de ça ? Pas grand-chose au final. Ce qui est malheureusement triste, c'est que ce schéma est applicable à beaucoup d'autrices célèbres. On a cité deux exemples juste avant. Enfin, le film The Wife, oui, qui là est une pure fiction. Voilà, il y a eu Mary Shelley aussi avec Frankenstein, entre autres. Voilà, c'est quelque chose qui, malheureusement, c'est quand même produit à plusieurs reprises, que ce soit parfois le compagnon qui signe l'œuvre. Alors, dans le cas de Marie Shelley, c'était pas signé du nom de son compagnon, c'était juste pas signé de son nom à elle. Mais bon, soit, parce qu'on estimait que c'était moins vendeur des femmes que des hommes, etc. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a vraiment... est-ce que la vie de Colette était très intéressante ? Pff, bof, quoi. Elle a un peu monté l'échelle sociale. Elle a tout connu, et puis bon, elle a eu son petit succès, elle a vu que c'était le mari, enfin son mari qui jouissait de son succès, ok, bon, leur relation prend un peu un coup de temps en temps, bon, voilà quoi. Non, ça m'a vraiment pas passionné. C'est pas, à nouveau, je répète, c'est pas inintéressant non plus, quoi, mais c'est très classique, c'est très, très plan-plan. Au niveau de la mise en scène, c'est classico-classique, académique à souhait. Et puis bon, je suis pas trop fan de Keira Knightley. Je l'aimais beaucoup quand j'étais petit, mais j'ai vite déchanté. Enfin, j'ai grandi entre-temps et j'ai remarqué que c'était quand même pas une dinguerie. Donc, ouais, déjà, étant pas fan de Keira Knightley, c'était compliqué. Dominic West, il fait un peu ce qu'il fait souvent, donc bon, ça m'a pas transcendé non plus. Bref, ouais, clairement. Donc, voilà, sans plus. Ah, très, très dispensable.
Moi, j'ai bien aimé.
Ben oui, voilà. Mais toi, t'as regardé ce film avec une petite tasse de thé ou j'en sais rien.
Ben, en fait, oui, je pense que c'est ça. C'est clairement un film... C'est pas un film qui vaut le déplacement au cinéma, qu'on se le dise.
Ça se passe le samedi soir sur France 2.
Exactement, c'est un film... c'est British Film Bazar Bidule, donc vous savez que c'est le film qui va passer sur la BBC ou Channel 4 en fin d'après-midi. En effet, la production, c'est pas extraordinaire. Ça ressemble un peu à un épisode de Murdoch ou des trucs comme ça par moment.
Oh mon Dieu, Kill Me Please.
Mais voilà, donc c'est pas dingue, clairement. Mais je trouve que ça raconte ça raconte bien l'histoire de Colette, qui a une vie assez intéressante, où il s'est passé pas mal de choses. C'était une femme quand même qui a pu marquer de par ses prises de parti à l'époque, surtout vers la fin de sa carrière, qui est abordée dans le film ici. Mais non, en effet, l'histoire de, c'est ce que je dis, c'est pas, pour moi c'était pas l'élément le plus intéressant du film, cette histoire de copywriting entre son mari et elle. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là, c'est parti, on va voir The Wife version 1893. Mais non, en fait, moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était cette femme qui va trouver du plaisir, en fait, dans autre chose que son mari, qui, lui, prend du plaisir par la reconnaissance, mais elle le prend différemment. Elle aime bien provoquer, à la fin, surtout. Et c'est un peu ça qui m'a le plus séduit dans le film. Maintenant, je peux comprendre que pour des assidus de cinéma qui attendent la mise en scène, c'est pas dingue.
Alors, je te le dis tout de suite, j'attendais rien de la mise en scène. Voilà,
c'est pas dingue, c'est classique.
Je m'attendais pas à du Spielberg, du Cuaron ou que sais-je encore.
Par contre, Keira Knightley, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve, alors que moi, j'aime pas vraiment Keira Knightley. Au contraire, j'ai jamais aimé.
Bon, elle est un peu moins tête à claque que d'habitude.
Ça va. Oui, c'est ça. Je me suis dit, ça va. Elle est bien. Elle est assez convaincante.
Et elle a un peu moins ses tics de mâchoire aussi. Ça
elle a moins des tics de tête. Oui, Dominic West, par contre, fait son Dominic West, mais elle a. Elle faisait ça très bien. Enfin, je ne sais pas si c'est parce que j'ai vu dans les pubs de parfum de nombreuses fois. Et donc, du coup, elle a ce côté un peu Paris.
Coco Mademoiselle.
Paris 1893, ça lui colle bien à la peau. Mais voilà, oui. Donc, du coup, ce n'était pas une erreur de casting pour Keira Knightley. Ça m'interroge juste sur le fait que pourquoi il n'y a pas des Français qui ont fait ce film, en fait. C'est une bah, Française.
Parce que peut-être que les Français ont compris que c'était inintéressant de faire un film là-dessus.
Je sais pas. Tu ne veux pas de l'argent.
Vraiment, ça t'a passionné, ce film
Ça ne m'a pas... passionné, mais je me suis pas ennuyé. Et j'ai pris même du plaisir à regarder le film.
Carrément.
Oui. Attention, je suis pas sorti de là en me disant ouais, j'ai fini le film, j'y ai pensé pendant 4 jours et ça m'a vraiment marqué et je repense à la scène du bazar. Non, c'est clairement pas ce film là mais c'est un film où j'ai pris du plaisir à regarder. Ça m'a intéressé jusqu'au bout. J'ai pas eu une scène où je me suis dit les seules scènes où je me suis dit oui, c'était les premières scènes du film, voilà, où là je me suis dit c'est plan, la fille de la campagne qui va amener une tasse de thé au grand monsieur qui vient manger chez elle et ses parents et qu'il parle avec ses parents parce qu'il voudrait bien se marier avec elle. Je me suis dit donc où est-ce qu'on part? Mais une fois qu'ils arrivent à Paris et que ça démarre cette histoire d'écriture, ça m'a plus intéressé. Voilà.
T'es courageux.
Je suis courageux. Mais bon, c'est pas un chef-d'œuvre non plus. Donc oui, je pense que 2 étoiles ça me paraît Oui, moi je te donne 2. Tu en donnerais une, mais...
Oui, grand max, oui, une étoile. Ouais.
Bah, c'est moi qui choisis. 2.
2 étoiles. N'écoutez pas cet homme, c'est un escroc.
2 étoiles pour Colette. Écoutez, voilà, si vous aimez ce genre de film, vous pouvez le regarder chez vous quand il sortira chez vous, ou bien vous allez au cinéma, en fait, comme vous le sentez. Non, allez au cinéma.
Oui.
Allez au cinéma.
Enfin, voir autre chose.
Oui, c'est ça. Parce qu'on a dit que c'est un film qui se regarde et qui se regarde aussi chez soi avec une tasse de thé quand il sortira à la télévision ou autre. Mais vu que nous sommes une émission de cinéma, selon vos plaisirs.
Ah là là.
On passe à une news ou pas?
Oui, tout ce que tu veux. Ouais.
On passe à une news pour changer de sujet. Parlons de streaming, tu le veux bien?
Dis-moi tout.
Parce qu'après Disney...
Qui ça?
après forcément Netflix, après Hulu, après Amazon Prime, après Uncut,
YouTube Premium,
après je sais pas ce qu'il va se passer, ou YouTube Premium, enfin iTunes Movie, tout ce que vous voulez.
Warner, non?
Non.
Non. Ah,
il y a un truc, non, il y a un truc.
Non, pas Universal?
Si.
Ah.
Si, si, mais c'est NBC Universal.
Ah oui.
Donc c'est la chaîne télé mélangée au... qui lance un service de streaming. Alors, ce que j'ai cru comprendre, c'est que le streaming serait gratuit. Mais il y aurait des publicités. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu comme OVIO, hein, pour la RTBF, ou bien si vous avez l'habitude de regarder des trucs sur TF1 ou quoi, sur le site internet, 50 minutes inside, par exemple. Mais vous avez des pubs toutes les 5 minutes.
Pour une chaîne télé, ok, ça peut fonctionner. Pour un truc de cinéma, ça me paraît un peu... illusoire de procéder ainsi, mais bon.
Mais non, j'ai une question à poser.
Je suppose qu'ils font leurs calculs et qu'ils savent bien. Enfin, ils savent bien. Non, il y en a plein qui se plantent.
Quand
hein,
tu vas au Cinoche et que tu as 10 minutes, 15 minutes de pub avant le film.
Oui, oui.
Alors que tu as payé ta place, je rappelle.
Oui.
Pourquoi ne pas avoir 10-15 minutes de pub avant ton film sur NBC?
Mais t'es chez toi, hein,
Fio. T'es chez toi, voilà. T'as 15 minutes de. Oh, et tu peux pas les passer, quoi, comme sur OVIO.
Non, mais alors, quelqu'un chez soi, il va pas se mater 15 minutes de pub avant de regarder quelque chose, hein. Pas chez soi. On est dans un monde où il y a tellement de choses, on est tellement vite distrait par n'importe quoi. Moi, si voilà, pour l'instant, je bouffe des courts-métrages, si après 2-3 minutes, je vois que je suis déjà sur mon téléphone...
Pas pendant.
Mais non, mais c'est comme ça. Non, mais c'est pour t'expliquer le principe. Si après 2-3 minutes, je vois que je suis déjà sur mon téléphone, c'est-à-dire que le film ne m'intéresse pas. Donc, t'es vite distrait par tout et n'importe quoi. Donc, je pense pas que les gens vont se taper 15 minutes de pub chez eux. Ça me paraît, non, inconcevable. Mais bon, déjà,
si c'est pour Jurassic World.
Si c'est pour des films, ça me paraît déjà complètement illusoire de faire une plateforme gratuite, même s'il y a des pubs. Il me semble qu'il faut qu'ils fassent ça par abonnement, style Netflix et tous les autres. Gratuitement, je pense qu'ils vont devoir revoir leur plan. De toute façon,
hein, mais...
y a déjà un problème, c'est qu'ils lancent tous leurs trucs. Donc, soit ils arrivent à niquer Netflix parce que forcément ils mettront plus leurs films chez eux et donc Netflix va être obligé de faire que ses propres contenus ou presque.
Et se ruiner du coup.
Oui. Soit eux vont tous se faire niquer par Netflix parce que les gens ne voudront pas payer pour 10 000 plateformes. Les gens veulent bien payer pour une plateforme audio, style... Spotify, Deezer, etc.
Dessus.
Parce qu'il y a tout ou presque dessus. Oui. Voilà. C'est pour ça qu'ils payent Netflix et Amazon, éventuellement. Il y a des gens qui payent les deux, parce que globalement, sur les deux, il y a du bon contenu.
C'est parce que les droits de la musique sont moins chers que les
droits de film. Mais les gens ne vont pas aller payer 10 000 plateformes de SVOD, style Disney+, Netflix, Amazon, et toute la clique qui risque de débarquer incessamment sous peu, plus tous ceux qui existent déjà et qu'on ne connaît pas forcément. Ou en tout cas qu'on connaît moins, non, ça va pas le faire. Il y en a qui vont se casser les dents. Il y en a déjà plein qui se sont cassés les dents parce que leur offre n'est soit pas assez médiatisée et pas assez connue, soit pas à la hauteur de ce qui existe déjà. Moi, je suis très curieux de savoir les chiffres, par exemple, de Uncut en France et en Belgique, parce que ils ont clairement un créneau que Netflix n'a pas forcément. On est plus dans le cinéma d'auteur européen.
Bien sûr.
À mon avis, je pense qu'il y a clairement un public pour. Donc je pense que ça peut marcher, mais...
Personnellement, j'ai eu une cote.
Oui, je sais.
Aussi. Tu l'as eu aussi, je ne sais pas.
Toujours pas été...
Toujours pas.
Je n'ai pas eu le temps, vraiment.
Honnêtement, c'est vrai que moi, je trouve que c'est le plus gros reproche que j'ai à faire à Netflix, c'est que Netflix, c'est très bien si tu veux regarder des séries plutôt américaines. Oui, il y a 2-3 séries françaises, mais voilà. Des films américains, des trucs pour enfants aussi. Mais c'est vrai que si tu veux voir des films peut-être plus d'auteurs, des films qui passent peut-être à Cannes ou des trucs comme ça, ou j'en sais rien, hein, des films français de manière générale, c'est vrai que l'offre n'est pas très intéressante. Honnêtement, tu cherches... Je prends l'exemple, j'aime beaucoup les comédies, vous le savez. Et donc du coup, je vais sur Netflix, je tape comédie. À part des trucs avec Adam Sandler, il n'y a pas grand-chose. Il y a peut-être une comédie française, genre La Cité de la Peur, c'est tout, quoi, tu vois, que j'ai déjà vu 20 fois. Mais donc du coup... Je suis obligé d'aller voir autre chose, quoi. Et donc, l'idée, c'est voilà. Si Uncut est là, c'est vrai que sur Uncut, tu tapes comédie, t'en as 50, quoi. des comédies françaises, des trucs un peu plus, voilà. Et puis après, bon, sans parler aussi des télévisions, hein, qui font aussi leur bazar, hein, Proximus TV, BTV, etc. Mais... Donc c'est vrai que c'est à force de disperser l'offre partout, contrairement à Spotify, etc. Spotify qui a fait un truc fantastique, c'est qu'ils ont réussi à tuer le téléchargement illégal. Aujourd'hui, télécharger de la musique...
Tuer, je dirais pas jusque-là, mais...
télécharger de la musique illégalement, ça se fait beaucoup moins qu'avant. Que la musique est sur YouTube, hein, tu peux écouter les musiques sur YouTube, en général, tu as les albums. Deux, bah parce que tu crées un compte Spotify, tu peux y aller, il y a quelques pubs parfois, ou bien tu payes un premium à 10 euros, mais tu te fais pas chier. Et tu as tous les nouveaux albums sur ton téléphone, préchargés, tu peux aller courir avec ton Spotify, tu te fais pas chier, tu as une soirée, tu mets ton Spotify, tout le monde est content. Avec le film, bah, si j'ai besoin de 10 abonnements, que je paye 10 euros chacun par mois, ça fait 100 euros par mois pour m'abonner à des trucs. Allô, quoi.
Ça fait quand même 1200
balles. Ça fait 1200, alors voilà, c'est plus cher que des cigarettes, hein, si t'es un fumeur. Donc voilà, ça me paraît dingue. Et donc du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est un peu logique, ils vont retourner au téléchargement.
Il y en a qui vont se casser les dents, il y en a qui se sont déjà cassés les dents. À voir qui va survivre. Je pense que Disney+ a une petite chance d'exister. Parce qu'ils ont un catalogue impressionnant quand même.
Et puis il y a les enfants aussi. Ils peuvent vraiment bien toucher là parce que Netflix, c'est sa force. En fait, Netflix fonctionne super bien chez les gosses. Ouais. Tous les parents, ils achètent une tablette, ils foutent Netflix dessus et puis ils ont la peine de soirée.
Disney, ils ont ABC, donc ils pourraient mettre une partie du catalogue ABC dessus. Ils ont Star Wars, ils ont tous les Marvel, ils ont tout le catalogue Disney.
Ils ont ados, enfants, ils ont vraiment
pas mal. Il y a moyen de brasser large et je pense que s'ils arrivent à proposer du contenu exclusif pour Disney+, je pense, style The Mandalorian, la série Star Wars, bah, je pense que ça peut quand même fonctionner. Mais les gens ne vont pas se démultiplier sur 10 000 plateformes.
Oui, bien sûr. Mais je ne suis pas très convaincu par, le modèle qui permet d'acheter des films à la demande.
Ça fonctionne pas mal, hein, je pense, la VOD.
Ok. Bah, je suis pas dans le target group à mon avis.
je le fais jamais, mais je pense que
parfois je vois des trucs 4,99€ pour louer un film une journée.
Bien sûr, mais je pense que ça fonctionne quand même assez correctement. Sinon il le ferait pas,
hein. Oui, bien sûr. Donc, voilà.
Mais c'est clair que si tu réfléchis, oui et non, tu vas payer plus si tu payes juste en VOD de temps en temps un film que si tu t'abonnes à une plateforme de SVOD. Mais vu que, comme on vient de le dire, la faiblesse, une des faiblesses de Netflix, c'est quand même son catalogue parfois. Il n'y a pas beaucoup de vieux films, il n'y a pas beaucoup de films européens, etc. Ben, je pense que quelqu'un peut préférer louer en VOD de temps en temps. Quoi.
Toi qui es. Tu regardes beaucoup de films, etc. Combien tu serais prêt à payer, tu penses, pour un service de streaming à la Spotify qui prend vraiment tout? Donc 6 mois après la sortie en salle, c'est dessus.
Ben, je pense que les gens seraient prêts à aller jusqu'à 15-20 euros facilement.
Oui, à mon avis, 20-25.
Ouais.
Si t'as tout. Donc tu dis, voilà. Alors,
tout. T'as jamais tout parce que c'est une question de droit.
Imaginons qu'un mec parvient à trouver un truc, un arrangement avec tout le monde. Ce qui serait très compliqué.
Non, ça n'arrivera jamais.
Impossible.
Non, c'est une utopie.
Mais s'ils sont arrivés dans le monde de la musique, donc pourquoi pas un jour dans le monde du cinéma, mais je pense que c'est très compliqué. C'est un secteur où. Le disque ne rapporte plus assez, donc c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Mais le cinéma rapporte beaucoup.
Oui, mais je pense que 20 euros facilement, c'est l'équivalent de 2 places de cinéma.
Ouais. Et si t'as tout chez
toi, c'est comme si t'es un couple, c'est comme si t'allais au cinéma une fois par mois.
Ouais.
Bon, après, faudrait voir par rapport au cinéma, etc., ce que ça changerait. Parce que forcément, si t'as accès à plein de films chez toi, tu vas moins au cinéma.
Mais je pense que la libération aussi, la raison pour laquelle le cinéma fonctionne pas mal, c'est qu'à l'époque, quand tu télécharger des films, par exemple, la qualité de la vidéo était moins importante. Aujourd'hui, les gens ont des bonnes télés, parfois du 4K, etc. Et ils ont envie que quand ils lancent le film, bah, boum, ça pète. Quoi,
tu vois, bien sûr.
Et donc, si tu dois télécharger illégalement un truc en 4K, t'as pour 20 gigas de téléchargement. Enfin, je veux dire, voilà, c'est décourageant. Donc, je crois qu'il y a vraiment un truc à surfer là-dessus où les services streaming doivent être en ultra HD 4K et proposer des films spectaculaires qui vont faire péter ta télé. Quoi.
Ouais. Bah, écoute... Tout est en permanente évolution.
C'est ça.
Donc, on va voir où ça va se diriger. Déjà, on va voir qui va survivre ou non. Et puis ensuite, le contenu.
J'ai assez peur pour Netflix sur le long terme, hein, pour être très franc.
Je ne suis pas si inquiet que ça, parce que pour l'instant, ils sont les seuls à proposer une alternative vraiment intéressante. En tout cas, au niveau de la création. Quand on voit le nombre de réalisateurs qui collaborent avec eux. Parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec le budget dont ils ont vraiment besoin.
Oui, c'est l'âge d'or pour eux. Hein.
Là, clairement, c'est leur point fort. Après, comme on le disait tout à l'heure, si les gens sont plutôt intéressés par des vieux films, etc., par exemple, il n'y a aucun. Je regardais ça avec mon père ce week-end. On regardait ça sur la télé. Il n'y a aucun Hitchcock sur Netflix, par exemple, tu vois.
Si, il y a Psycho.
Non, il y a le Psycho de Gus Van Sant, mais je pense pas qu'il. Je pense pas qu'il le Psycho de. Je pense pas qu'il y ait celui de Hitchcock.
Ok.
Enfin donc voilà, tu vois, par exemple, c'est un exemple parmi énormément de qui sont possibles. Je pense qu'il y a plein de films de réalisateurs qui sont pas du tout sur Netflix. T'imagines, il y a aucun film d'Hitchcock. Bon voilà, c'est.
Tu as raison, c'est pas le Psycho original, voilà. C'est un autre.
C'est celui de Gus Van Sant, je pense.
Avec Vince Vaughn.
Du début des années 2000, ouais.
Ouais, 1998.
Ah, voilà, 98. Donc voilà, il y a clairement un manque sur Netflix, en tout cas en Europe.
Non, mais puis Netflix, le modèle d'un Netflix, c'est le plus longtemps la personne reste sur la plateforme, le mieux c'est pour eux, parce qu'ils analysent des données, tout le bordel. Et donc, leur intérêt, c'est forcément d'essayer d'avoir des séries plus que des films.
Bien sûr. Ah, ben c'est leur core business, c'est clairement ça.
C'est donc là, ils ont lancé Sex Education, etc. Mais voilà, le but, c'est vraiment d'attirer... des gens pour qu'ils restent le plus longtemps possible sur la plateforme, tout comme YouTube par exemple.
C'est ouais. Même concept. Mais bon, il faut qu'ils tapent fort niveau film aussi. Hein, donc, enfin voilà.
Oh là là, on pourrait bref, avoir une émission spéciale.
Mais c'est toujours dans les cartons. Mais là, les cartons moins, j'ai moins le temps. Mais
non, mais c'est intéressant de faire un débat sur les services de demande. C'est une bonne,
mais ouais,
une
ouais.
Bonne idée.
On a pas mal de choses dans les cartons d'ailleurs.
On a pas mal de choses dans les cartons.
On a une. Enfin, soit.
Coming pretty soon.
Ouais.
How, we don't know, but on verra.
Ouais.
D'ailleurs, si vous en avez 10 euros, n'hésitez pas, parce qu'on aura peut-être besoin d'un peu d'argent.
Voilà, on a une excellente idée d'émission.
On va créer un Patreon. Oui, alors, dernier film de la semaine.
Oui, parce que là, tu sais qu'on va être, on va faire aussi long que d'habitude, hein, sais, avec moins de films.
Parce qu'on est bien, tu vois, tu m'as fait un thé, tu m'as accueilli gentiment chez toi dans ta demeure.
Comme toutes les semaines.
Presque, oui, presque.
Ouais. Pas... Bon là, on n'a plus de thé. Contre, on va vite abréger.
Une tasse de Cathy, quand même.
Ouais.
Tellement ciné.
Belle tasse, tellement ciné. T'as voilà. Vu ça
enfin, tu vois, on fait même la pour les autres émissions, c'est pas
mal. Mais oui.
Je sais.
Tellement ciné sur la 2, ça reprend bientôt. Enfin, non, ça a déjà repris.
Bien sûr que ça reprend vite.
Tous les mardis.
Ils ont deux émissions. Ils ont aussi Agenda Ciné, non. Mais c'est juste un mec qui parle sur des extraits de films.
Ouais, ouais.
Du tout. Donc, dimanche soir, je crois que c'est avant la. Ou lundi soir, ils font toujours un film RTBF. Soit.
Je ne regarde pas la télé.
Voilà. Tu devrais.
Mais je regarde beaucoup sur Ovio.
Stéphane Plaza.
Ouais.
Formidable.
Soit. Merci Guillaume.
Peterlo. Parlons du massacre de Peterlo.
Bon, on va peut-être pas en parler tant
longuement,
que ça.
Mais voilà. Un film de Mike Lee.
Grand réalisateur anglais, Mike Lee.
Oui, tout à fait. Institution en Angleterre.
Ah oui, il a donné cours à la London Film School. Enfin.
Oui, c'est pas n'importe qui. Hein.
C'est un grand.
C'est clair. Alors, parle-moi-en, justement, si c'est un grand.
Alors, vous pouvez te refaire sa filmo là comme non, ça, non, ça va être non, un peu plus compliqué.
Émission spéciale Mike Lee.
Quoique, sors là un peu, on va voir. Je pense qu'il y a Irina Palm, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, vas-y. Parle.
Quoi d'autre ?
Parle.
Oh là, tu m'as pris au dépourvu. Soit Peterlo, c'est oui. Un film que j'ai découvert il y a 6 mois, plus ou moins, à la Mostra de Venise. Et pour être tout à fait transparent et honnête avec toi, je suis rentré dans cette projection. C'était quand même un film que j'attendais avec une certaine impatience. Vas-y.
C'est lui qui a fait Mr. Turner, là, récemment.
Juste, Mr. Turner. C'était bien.
Another Year, aussi.
Juste.
Be Happy. Bien aussi.
Que des bons films.
All or Nothing. Et plein d'autres films.
Et Irina Palm, il y a ça aussi
Naked.
Ou je confonds avec quelqu'un d'autre.
Non, c'est pas lui.
D'accord.
Secret et mensonge. Deux filles aujourd'hui.
D'accord. Oui, mais tu fais bien, t'as bien fait de rappeler plusieurs des titres de ces derniers titres.
Mr. Turner, oui, c'était son dernier.
C'est très bon cinéma.
Mm-hmm.
Et oui, donc cette projection à Venise, j'ai été la voir parce que j'attendais quand même avec une certaine impatience le film. Et puis rapidement, après le début de la projection, il a commencé à pleuvoir, à un point qu'on entendait la pluie sur le toit. Et je me serais bien barré, mais vu qu'il pleuvait très très fort... Je suis resté jusqu'à la fin. Voilà.
Ah merde.
Non, vraiment, ça ne m'a pas passionné.
Et pourquoi ?
Alors, en gros, t'as la durée du film devant toi ? Je crois qu'il fait plus de 2 heures, 2 heures et demie.
Ah oui, il fait 2h34.
2h34, tu vois ? C'était long.
Non, on n'est pas encore au niveau Titanic, mais presque.
Ouais. Eh bien, je pense que pendant 2h, 2h10, tu vois... les différentes... enfin, ce qui se passe. Donc, en fait, c'est toute une question de politique anglaise, de la répression, etc., qui va mener à une manifestation et un massacre. Les gens qui sont sur une place pendant cette manifestation et le discours d'un des leaders de l'opposition, ou en tout cas de la révolution, entre guillemets, est censé avoir lieu, ils vont se faire dégommer par la cavalerie anglaise. Voilà.
D'accord.
C'est de ça que parle le film. Hein.
Okay, oui,
et la préparation de la... Enfin, tous les événements qui vont mener à ce rassemblement, ça dure, je vais dire quoi, 2h10, 2h15. Et puis, les 15, 20, 30 dernières minutes, c'est le massacre, quoi.
Ok.
C'est... Il y a des choses intéressantes, hein, je veux dire, des réflexions sur la politique, des réflexions sur la vie, sur la vie sociale anglaise, etc., à cette époque, qui sont intéressantes et qui sont pas... qui sont dignes d'intérêt, très clairement.
Qui sont pas achetés, comme on dit, quoi.
Ben oui, mais voir ça pendant plus de 2 heures avant d'arriver à cette finalité qui est ce massacre, c'est lourd. C'est très, très lourd. Tandis que je pense que ce qui aurait été peut-être un peu plus intéressant, c'est d'avoir un petit peu voir ce qui a mené à ce massacre, voir le massacre, et voir surtout l'après. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé, etc. Tu vois,
oui.
Tandis que voir juste un début de révolte sociale et puis terminer sur un massacre et puis basta, Boyton, c'est fini.
Ouais, clairement.
Ouais. Peut-être qui goûte trop peu, quoi.
Tu restes un peu sur ta faim.
Oui, parce que même si, à nouveau, il y a des belles joutes verbales, il y a des débats d'idées qui sont remarquables, c'est très bien filmé, les décors sont fantastique, les costumes, vraiment tout ça, tout ce qui est direction artistique est très très réussi. D'un point de vue de mise en scène, il y a quand même le gars a du talent. On a parlé de sa filmographie juste avant. Elle parle pour lui. Malgré tout ça, vraiment, moi ça m'a...
Ce coup-ci, il peine à convaincre.
Très clairement. Et je pense que, honnêtement, s'il n'y avait pas eu cette pluie diluvienne au-dessus de nos têtes pendant la projection, beaucoup plus de personnes seraient parties, auraient quitté la salle.
Du coup, tu lui donnes 4 étoiles. C'est...
Oh oui, de loin. Ouais. Non, mais c'est vraiment dommage parce qu'en fait, c'est marrant parce qu'à quelques jours d'intervalle, il y a eu Peter Law et puis le film de Pierre Scholler, Un peuple et son roi. Oui. Les deux avaient plus ou moins le même schéma narratif, tous les deux avec les mêmes types de défauts et... voilà, c'est dommage. Sauf que là, franchement, vraiment, 2h34 avec au moins 2h10 de blabla et puis 25 minutes de massacre, c'est vraiment assez pénible, quoi. Alors, et pour expliquer d'où vient le nom, Peter Law, il l'explique dans le film. Je pense que c'est même une des dernières répliques. Il y a des journalistes qui assistaient au massacre, au massacre, à la manifestation, et qui ont donc assisté au massacre aussi. Il y en a un qui a dû lancer une idée de titre, et en fait, l'endroit où cette manifestation avait lieu, c'était style Saint Peter quelque chose ou je sais pas quoi. Ouais. Et donc, il y en a un qui a fait une contraction entre Saint Peter machin et Waterloo, la bataille.
Ouais.
Et ça a donné Peterloo. Voilà. Donc, la bataille, enfin, le massacre est connu sous le nom de Peterloo.
Tout à fait.
Ceci explique cela. Mais vraiment, c'est une déception.
Si t'as envie de te renseigner sur le massacre de Peterloo, il vaut mieux aller regarder un documentaire Arte.
Alors, ça m'a quand même donné envie d'en savoir plus. Hein, et c'est ce que j'ai fait par la suite. Je me suis un peu intéressé à la chose. Donc, bon, ça, c'est déjà réussi. Mais c'est triste à dire, mais il faut se le farcir, quoi, le film.
Bon, c'est vrai que c'est jamais très bon hein, quand on dit ça d'un film pour un réalisateur ou quoi, tu on se farcir, c'est
ouf. Ouais, mais d'un côté, j'ai envie de lui donner 2 étoiles parce que c'est très très bien foutu. Mais putain que c'est chiant quoi. Donc je vais lui en donner une parce que c'est pas ça serait pas honnête de donner moins parce que voilà, il y a plein de choses très réussies dedans comme j'ai cité plus tôt, mais vraiment ça m'a pas convaincu du tout quoi. Dommage.
Voilà.
D'ailleurs, il n'a rien gagné à Venise. Hein.
Non, justement. Voilà. Donc voilà, à mon avis, il passait un peu inaperçu. à gauche, à droite, donc voilà, c'est dommage.
Je pense qu'il n'a même pas encore date de sortie en France, par exemple. Donc,
oui, ça pue.
Bah ouais, c'est compliqué de trouver un distributeur quand...
Sur Uncut, hein, dans quelques mois.
Qui sait ?
Qui sait ? Alors, cette semaine, il y avait plusieurs films qui sortaient, dont du coup, on n'a pas vu, hein, mais on va quand même les mentionner, comme à chaque fois, en fin d'épisode. Ouais. Le premier film, c'est Sir, un film indien. C'est rare, c'est un film indien qui sort chez nous, c'est plutôt positif.
C'est très rare. Ouais.
À mon avis, la sortie est limitée. Hein. Ouais. Donc renseignez-vous.
Sans doute une séance au Vando, mais.
Exactement.
Une autre galerie. Voilà.
Une figure dans la liste. Bah, Colette, voilà. Hein. Pour Thibaut, c'est un film BBC à tout péter. Et pour moi, c'est un film.
BBC Plus.
BBC Plus, c'est leur service de streaming. Voilà. Glass, c'était. Oui, donc du coup, 2 étoiles pour Colette. Pour moi, 1 étoile pour Thibaut. Glass, c'était la fin d'une trilogie lancée par Incassable de M. Night Shyamalan.
Ouais.
Et également, il y a eu Split entre-temps. Et donc, il clôture un peu tout ça avec un casting qui regroupe tout le monde. Du coup, hein, James McAvoy, mm-hmm. Samuel Jackson, Bruce Willis, enfin voilà, du beau monde. Un peu une espèce de thèse sur qu'est-ce qu'un super-héros ou en quoi est-ce qu'un super-héros, c'est pas spécialement bien. Donc, c'est l'anti-Avengers. J'aime ouais. bien cette espèce
oui, si
de...
Oui, tu le présentes plutôt bien.
Donc, voilà. Film aussi intéressant, 2 étoiles.
Oui, 2 étoiles plus. Hein, je pourrais...
2 étoiles
J'ai plus. J'ai du mal à lui donner plus, mais...
On n'est pas BBC Plus,
mais c'était bien.
On est NBC Universal.
Mais clairement, c'est le meilleur film des trois dont on a parlé aujourd'hui.
Peter Lowe qui est...
Un moment difficile à passer.
Voilà, donc entre Peter Lowe ou Colette, je pense que tu regarderas encore une fois Colette.
Mais des trois sujets, c'est peut-être le plus intéressant, en fait.
Ah
hein.
oui, c'est carrément, c'est plus pointu.
Paradoxalement.
C'est plus... Oui, c'est sûr, voilà. Mais c'est, ça parle à un certain public, film historique, voilà.
Oui,
comme c'est
mais
que...
très honnêtement, je pense que lors des séances de ce film, on va être dans le 3x20 plus, hein. 3x20 ans
la
plus.
La carte senior, c'est ça que tu veux me dire.
Avec des... Oui, la carte senior, avec... Peut-être bien la moitié de la salle qui sera endormie
Allez,
après
méchant.
Les trois quarts d'heure. Et... non, mais.
Oui, il bah, y a la manière ouais. de faire le film, et c'est vrai que 2h34 sur un film où finalement pendant 2h ça bleu et après il y a 10 minutes ou quelque chose, bon, il y a moyen de faire, le rendre ça un peu plus dynamique, n'est-ce pas?
Oui.
Styx, film de Wolfgang Fischer.
Une dame qui rejoint une île qui fait une traversée de l'Atlantique seule, en bateau, et puis il va y avoir une tempête, et voilà. Et donc Styx, toi qui es incollable sur la mythologie grecque,
non. C'est pas le truc
c'est
que
le fleuve,
tu mets...
C'est le fleuve que tu traverses pour accéder aux enfers.
D'accord.
Dans la mythologie grecque.
Dieu.
Donc, j'ai pas vu le film. Hein, mais
parce qu'il y a eu tellement de films sur des gens isolés en mer qu'ils se sont dit qu'il faut qu'on trouve un titre original.
Mais voilà.
C'est aussi parce que c'est un film allemand pour ce cas-ci, je pense.
Je pense bien.
Dutch, oui. Une jeunesse dorée d'Eva Ionesco.
Dutch avec... ou Deutsch parce que,
hein, Deutsch.
C'est juste Dutch.
Non, c'est D-E.
Ça fait hollandais.
Wolfgang Fischer, Susan Wolf.
Oui, c'est bien allemand.
Alexander Bayer. Ok. Une jeunesse dorée, un film français d'Eva Ionesco avec Isabelle Huppert, entre autres.
Je ne l'ai pas vu, mais très honnêtement, on en parlait plusieurs fois et pas en bien.
Ok, donc c'est une jeunesse dorée
mais
qui passe.
Il y en a certains qui m'en ont parlé, la même personne, au moins 2 ou 3 fois en me disant « Est-ce que je t'ai dit que c'était vraiment pas bien, ça hein ?»
Oui, fait... ok, donc ils ont insisté.
Oui, oui, tu m'as dit.
Et puis, un dernier film, c'est « Au temps où les Arabes dansaient » de Jawad Rablib,
ouais.
Un documentaire.
C'est un film belge qui s'interroge sur la place de la culture arabe dans la société. C'est bon, c'est moins bon côté, voilà. C'est... J'en ai eu de bons échos, il est passé au Festival du cinéma méditerranéen, je pense.
Écoute.
Voilà, donc curieux.
Semaine prochaine, on se revoit hein, pour l'épisode 18 de Cinécast.
Déjà.
Avec pas mal de films, je ne sais pas desquels
Dis-moi
on va
tout.
Parler parce qu'on n'a pas encore tout vu, mais concrètement, la semaine prochaine, il sort L'Ordre des médecins de David Roux.
Ah oui, pas vu.
Ben is Back avec Julia Roberts.
Je l'ai vu.
Tu l'as vu. Double Vie avec Guillaume Canet et Juliette Binoche.
Je l'ai vu.
Un petit sourire. Le Rat, c'est les rats, film d'animation court-métrage de 42 minutes. Ben non. The Mule de Clint Eastwood avec Clint Eastwood et Bradley Cooper.
Je le vois dans 2 jours.
Border ou Kranz, film.
Ah oui, le film suédois.
Ouais.
Qui est à Cannes.
The Hate You Give, un drame américain. Je sais pas. Un film que j'aurais peut-être voulu voir hein, dans mon inconscient. Les petits flocons.
Je l'ai vu.
Film au Festival de l'Alpe d'Huez, si je me trompe pas.
Je pense, mais. Crois-moi, je suis pas sûr que t'aies envie.
Et alors là, je ne sais pas s'il sort, mais à mon avis, c'est très limité. La réédition de La Liste Schindler, pour son 25e anniversaire.
C'est déjà la semaine prochaine ?
Ouais.
Oui, c'est prévu qu'il ressorte effectivement.
Ah non ? Pour que si vous là alors, 27. Ah oui, le 27 du 1, mais donc du coup c'est le week-end.
Ah, c'est juste qu'il sort pas
le mercredi. Il sort pas le mercredi, oui.
Okay. Oui, c'est prévu. Une ressortie de la liste de Schindler de Spielberg au cinéma pour ses 25 ans en effet. Évidemment, je serai le premier dans la salle. Donc
si je me trompe pas, voilà. On parlera de Ben Is Back, de Double Vie, de Mule et de Les Petits Flocons.
Ouais. Et alors faut que je vérifie la date, mais il faut que je vais sans doute te parler d'un film qui sort sur une plateforme de SVOD qui commence par un N et le logo est rouge. Un film avec Noomi Rapace. Voilà. Un Netflix Originals qui sort fin du mois. À nouveau, il faut que je vérifie la date parce que peut-être que j'aurais déjà dû en parler aujourd'hui.
C'est The Eight Sisters.
Au pire, j'en parle la semaine prochaine.
Écoute.
Mais je pense que la semaine prochaine, c'est bien.
On en parlera.
Donc voilà.
Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté Cinécast. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre d'une manière ou d'une autre pour rester au courant des différents épisodes. Et on se dit à très bientôt.
À bientôt, la semaine prochaine.
Des bisous.